autour de la question.
D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre table ronde mensuelle avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique venus comme chaque mois avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner, chers amis auditeurs qui êtes loin d'ici. Nous sommes en direct avec Cécile Lestienne de Cerveau et Psycho. Bonjour Cécile.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Vincent Bordenave de La Recherche. Bonjour Vincent.
Bonjour à tous.
Et merci Vincent. Mathieu Novak de Science et Avenir. Bonjour
Mathieu. Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Et Vincent Nouriga de Science et Vie. Bonjour. Vincent. Merci et bienvenue au club pour nous interroger dans le désordre sur la fusion nucléaire, énergie du futur, info ou intox, sur le rôle indispensable des vers de terre, ingénieurs naturels du sol, mais aussi sur l'émergence de notre espèce humaine, sapiens, homo sapiens, la seule à occuper aujourd'hui toute la Terre. Nous irons également voir jusque dans le cerveau des gauchers pour tenter de comprendre pourquoi et comment 12% de l'humanité préfère utiliser la gauche plutôt que la droite. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Bienvenue. Bienvenue pour faire le point d'abord sur ce nouveau coronavirus 2019-nCoV, responsable de l'épidémie de pneumonie virale en Chine, qui a conduit l'OMS à déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale. Alors que sait-on sur ce virus émergent? Où en est la recherche? De nombreuses équipes dans le monde se sont mobilisées en Chine comme ailleurs pour décrire, analyser ce virus et son épidémiologie. La recherche va vite, on ne peut pas lui demander d'aller plus vite, mais est-ce que ça ira assez vite? Qu'en pensez-vous? Qui veut réagir? Mathieu Novak.
Ah ben c'est toujours le temps de la recherche n'est pas celui de la maladie, donc c'est toujours compliqué. Il y a eu un effort qui est à peu près sans précédent. Il s'est passé environ un mois entre le moment où on a déclaré les premiers malades officiellement et le moment où les chercheurs chinois d'abord ont mis sur une banque de données publique l'ensemble du génome. À quoi ça sert? Ça sert déjà à faire un test diagnostique qui a été fait dans les deux semaines encore. En six semaines, entre premier malade, on a eu des tests diagnostiques. On a su à peu près ce que c'était comme virus. Mais après, il y a beaucoup d'inconnus toujours sur la façon dont il se transmet, sur la vitesse de transmission, sur sa durée d'incubation, sur la mortalité. Donc là, on est toujours dans des phases d'observation, mais on est sur des temporalités différentes.
C'est quand même une collaboration, là, une collaboration entre chercheurs qui s'est rapidement et tout de suite mise en place.
Oui, en tout cas, dès que les autorités chinoises ont communiqué sur la question.
Effectivement.
Mais oui, et puis il ne faut pas trop demander attention. Il y a déjà des regards si certains médicaments pourraient être utiles, des médicaments qui existent déjà, qu'on connaît déjà. Je sais que certains cherchent déjà des pistes de vaccins, mais attention à ne pas aller trop vite non plus. Si on s'aperçoit après que les médicaments en question ou les vaccins en question, qui de toute façon ne peuvent pas se faire en quelques semaines, ce n'est absolument pas possible, auraient des effets secondaires, ça pourrait être plus grave que le phénomène lui-même, qui est grave certes, qu'il faut absolument regarder parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une épidémie mondiale très grave, mais pour l'instant... Heureusement, le nombre de morts n'est pas si grand que ça. Enfin, c'est toujours évidemment une catastrophe absolue pour les familles qui sont touchées. Mais on n'en est pas à des millions de morts, ni même des milliers.
Et puis, on a connu d'autres virus nettement plus virulents et menaçants. On pense évidemment au virus Ebola, sur lequel les chercheurs travaillent aussi.
Absolument, dont la létalité est là, pour le coup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte. Ça, on le sait déjà, même si on a des interrogations sur quelle est la létalité vraiment de ce coronavirus. Mais Ebola, ça va jusqu'à 50%, je crois me souvenir. Donc, on n'en est pas là. C'est plutôt autour de 2%, dit-on, aujourd'hui. C'est pas la même chose.
Il n'y a pas forcément besoin d'une mortalité énorme. La grippe espagnole, il y avait 5% de mortalité,
absolument,
finalement.
Et ça fait 50 millions de morts.
Ça suffit, 50, 100 millions de morts, suivant les... Là, pour le moment, les médecins chinois et autres sont en train de tester empiriquement des traitements, effectivement, antiviraux qui fonctionnent contre le VIH, ils sont en train aussi de tester le remdesivir qui avait été tenté contre Ebola, qui avait échoué. Mm-hmm. Et même aussi, alors il y en a qui réfléchissent aux anticorps monoclonaux, mais là on est plutôt dans la recherche fondamentale. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a au moins 3 entreprises de biotech américaines qui annoncent qu'elles vont faire des vaccins. Mm-hmm. Avant le printemps, même, enfin, pas avant le printemps, des tests sur l'humain avant le printemps, avant l'été.
Ça semble très, très rapide
déjà. C'est très audacieux, ils ont des techniques particulières là-dessus, assez révolutionnaires, visiblement. Mais après, il faudrait produire des millions de doses, des centaines de millions de doses industriellement. Encore faut-il que le traitement sur l'humain, en tout cas que les premiers tests
ça marche,
à la
ça
phase
fonctionne.
1 fonctionnent correctement. Après, il faut effectivement... Ça pourrait être utile, pas forcément pour l'épidémie actuelle, évidemment, c'est trop tard, mais si le virus devenait saisonnier éventuellement, comme c'est le cas de la grippe, sachant que là, pour le coup, le SRAS, en 2004, il n'y avait plus de SRAS. Il est apparu en 2002. En 2003, il a commencé à s'éteindre. Il y a eu une petite résurgence en 2004, mais on a réussi avec des méthodes à la chinoise, effectivement, en tout cas
radical,
en Asie,
hein.
Assez radicales. Une fois que les autorités chinoises ont pris des mesures, ça s'est plutôt, plutôt pas trop mal passé. On a réussi à éteindre le SRAS. Pas le MERS, je crois qu'il y a encore du...
Ça, c'était un autre virus,
un autre coronavirus qui était apparu en 2012 en Arabie Saoudite. Et là, il y a effectivement des résurgences. Mais le SRAS, on était arrivé à venir à bout.
Donc l'expérience d'un virus peut servir à l'autre. On peut aussi le dire ça comme ça, Vincent Bordonnat.
Oui, et je pense en plus qu'il y a un véritable enjeu dans le futur sur le suivi et le séquençage de ce virus. Quelle évolution il va avoir en Australie, quelle évolution il va avoir en Europe ou en Chine. Est-ce qu'on aura le même vaccin pour ces différentes souches?
Ça, c'est, oui, c'est ça évolue chose... très très vite.
Exactement,
les vaccins,
ouais.
Les virus,
c'est,
pardon.
C'est un virus ARN comme la grippe qui peut donc évoluer très vite. Et sur la transparence, il y a un élément aussi important qui montre la volonté de prendre les choses en main. La revue Nature a publié il y a 2 jours en libre accès des papiers principalement écrits par des chercheurs chinois qui n'ont pas été ni édités ni revus pour aller le plus vite possible dans l'éparpillement de nos connaissances et donner le maximum d'outils au niveau mondial.
La science ouverte en marche, hein, là, finalement, vraiment.
Toutes les revues font ça. Enfin, tous les épidémiologistes qu'on a contactés nous disent que toutes les revues jouent le jeu. C'est en open access. Les séquences du virus, effectivement, comme le disait Mathieu, a été publiée.
Et ce matin, on a une annonce à la télévision chinoise que des chercheurs auraient mis la main sur 2 molécules qui semblent efficaces in vitro, ce qui va y avoir des tests. Voilà. Donc, on n'a pas encore de précision techniquement ce qu'ils ont fait, mais... ça avance vite, quoi.
C'est compliqué de se
projeter. Ça avance vite. Hein, autour du virus, c'est compliqué de se projeter. On en reparlera probablement, évidemment, dans les jours, les semaines, voire les mois qui viennent. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Allez, je vous propose maintenant de changer totalement de sujet et de nous pencher avec vous, Mathieu Novak, dans Science et Avenir, sur les vers de terre. Oui, les vers de terre, peu ragoûtants, apparemment insignifiants, dont on redécouvre aujourd'hui le rôle essentiel pour la fertilisation de nos sols. Vive les vers de terre, ça pourrait presque être notre mot d'ordre. C'est aussi le sujet d'une pièce de théâtre, écrite et interprétée par Sophie Akaoui à partir de ses échanges avec celui qui a réalisé le premier inventaire des vers de terre en France, Marcel Boucher, extrait de Dieu, Darwin et Marcel, par Sophie Akaoui.
On parle beaucoup des abeilles, mais non d'une pipe le vers de terre, hein ? Figurez-vous que notre destin repose sur lui. Le vers de terre représente 70% de la masse animale. Il ne faudrait pas que ça baisse.
1 kilo de vers de terre peut retourner 270 kilos de terre en un an.
Costaud le vers de terre, hein. Petit, mais 80% de muscles, hein.
Pour les vers de terre, nos petits gars de sous-sol, hip hip hip, hurrah!
Hipipi pourra pour les vers de terre. Mathieu Novak, c'est presque la conclusion d'une vaste étude qui a fait la une de la revue Science. C'est que vous décryptez pour nous dans Science et Avenir de ce mois de février.
Oui, figurez-vous que les vers de terre, c'était l'objet du dernier ouvrage de Darwin en 1881. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas fait d'inventaire complet des vers de terre sur la planète. Et donc là, c'est une première. On a essayé de savoir combien d'espèces, où elles sont, en quelle densité. Parce qu'il faut savoir, on a entendu là 70%, alors selon les estimations, d'entre 50 et un peu plus...
De la biomasse animale.
Mais donc c'est 200 millions de tonnes de vers de terre sur la Terre. C'est quelque chose d'absolument gigantesque. Hein.
Mais vous dressez une carte qui est insensée, en fait. Ouais. Hein, une carte des vers de terre
où ils se trouvent. Alors la conclusion, c'est qu'ils se trouvent surtout dans les zones tempérées plutôt que dans les zones tropicales. Alors pour le savoir, ça n'a pas été facile à faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait les chercheurs? Ils ont pris tout simplement des pelles. Et ils ont fait des trous. Ils ont fait des trous partout sur la planète, des trous de 30 cm de profondeur, de 30
cm. Pour compter les vers de terre.
Et ils ont regardé ce qu'il y avait dedans. Ils en ont fait plus de 7000 dans 56 pays. Donc voilà, une méthode efficace. Qu'est-ce qu'ils y voient? Donc on a plus dans les zones tempérées et le nombre d'espèces, on le connaît aujourd'hui, c'est à peu près 6000, mais ils estiment que ça pourrait aller jusqu'à 10000.
Le nombre d'espèces de vers de terre, on en connaît 6000.
On en connaît 6000 décrites et il pourrait y en avoir 10000. Alors les vers de terre, c'est un animal qui ne bouge pas beaucoup, donc il faut vraiment aller le chercher un peu partout sur la Terre. Pour retrouver les différentes espèces.
Alors, et pourquoi est-ce qu'on a fait cet inventaire? Pourquoi c'est si important de savoir combien il y a de vers de terre et s'ils sont menacés aujourd'hui?
Alors c'est très important parce qu'ils ont un rôle prépondérant pour la santé de nos sols. Il y a des scientifiques qui les surnomment les ingénieurs souterrains des écosystèmes. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils labourent un peu le sol et ils font des petites galeries. Ça permet de maintenir l'eau, ça permet d'aérer le sol. Ils mangent, un ver de terre mange tous les jours 30 fois son poids en terre. Et donc, ils recrachent après, ils relâchent des nutriments qui servent aux plantes et ils permettent de brasser la terre. Donc, c'est un rôle fondamental. Et ce qu'on ne sait pas bien, c'est quel est l'impact du réchauffement climatique et des cultures intensives, donc c'est ça qu'on a pu voir ici, sur la population des vers de terre. Et on voit que effectivement, si vous prenez une prairie qui est laissée en prairie en permanence, on a à peu près 1,5 tonne et 11 espèces de vers de terre par hectare. Si vous prenez un champ de maïs, par contre, on retombe à 4 espèces contre 11 et 100 kilos contre 1450.
Ah oui, donc c'est vraiment une baisse considérable.
Et là où il y a des pesticides, on divise par deux... on part de le nombre d'individus. Donc voilà, quand c'est labouré, quand c'est couvert de pesticides, les vers de terre, ils en souffrent directement. Et les conséquences, elles sont pour tous les micro-organismes du sol et a fortiori après pour les plantes.
Oui, notamment pour les plantes, parce qu'il y a un petit encadré où vous dites qu'ils joueraient peut-être ces vers de terre à une sorte de rôle de vaccin.
Alors là on est dans le domaine de l'hypothèse, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très curieux. On a fait une expérience toute simple, on a pris une plante toute seule dans la terre, et on a pris la même plante et on lui a mis des vers de terre dans sa terre. Et qu'est-ce qu'on voit? Que la plante qui a des vers de terre, elle fait à peu près un quart de feuille en plus. Alors au début, on s'est dit, c'est parce que le vers de terre lui apporte des nutriments, éventuellement va tuer des mauvaises bactéries. Mais en éliminant les épithèses, il n'y a apparemment pas que ça. Et les chercheurs aujourd'hui, c'est vraiment du travail en cours, essayent de tester l'hypothèse, est-ce qu'il n'y aurait pas un signal chimique qui resterait encore à découvrir entre le vers de terre et la plante? Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, ce signal?
Une communication souterraine.
Ouais. En fait, l'hypothèse, c'est que le vers de terre mangerait des bactéries qui pourraient être pathogènes et relâcherait des fragments de cette bactérie. Et ça serait perçu par un signal qu'on ne connaît pas par la plante en tant qu'alerte, qui produirait du coup des sortes d'anticorps et se protégerait elle-même. Alors qu'une bactérie, une plante sans vers de terre n'est pas au courant et du coup peut souffrir d'une infection.
Génial, vive les vers de terre, un trésor sous nos bêches. Pour mieux comprendre donc le rôle essentiel de ces ingénieurs des sols, article que l'on peut lire dans Science et Avenir, dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous offrir pour que vous ne regardiez plus jamais les vers de terre de la même façon. Et ça, c'est la famille Chédide au complet qui vous le rappelle sur RFI.
J'aurais pu naître vers de terre, pourquoi pas descendre d'un coléoptère, tralala. J'aurais pu vivre sans mon phare, pianissimo, en creusant d'être sous la terre, incognito, même, voilà. Avec mon âme, animal, amour perdu, cœur sans dessous dessus. J'aurais pu être un lion superbe, dangereux, bronzer ma vie sous des soleils paresseux. Échanger chaque jour de forme sans histoire, et faire le bien comme le mal sans le savoir, même, voilà. Avec mon âme, animal, amour perdu, cœur sans dessous dessus. Aujourd'hui que tu me quittes sans préavis, j'ai l'impression que tout s'effondre dans ma vie. Je maudis celui qui m'a failli comme je suis, avec ce cœur qui se lamente sous la pluie. J'aurais pu naître vers de terre, pourquoi pas descendre d'un coléoptère, mais voilà.
Mais voilà, j'aurais pu naître vert de terre. La famille Chédide sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse jusque dans nos oreilles d'Homo sapiens, même si nous n'avons de sage que le nom, comment se fait-il que seul Homo sapiens, notre espèce humaine, peuple aujourd'hui toute la Terre? Question ouverte dans ce dossier de la recherche que vous avez coordonné, Vincent Bordenave, et qui démarre par un entretien avec l'éminent paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin de l'Institut Max Planck de Leipzig, co-découvreur avec son confrère marocain Abdelwahed Ben Serre du plus ancien fossile d'Homo sapiens connu à ce jour, l'homme de Djebel Iroud, exhumé non pas à l'est ou au sud du continent, mais bien au nord, au Maroc, où vivaient donc déjà les tout premiers Homo sapiens il y a 300 000 ans. On écoute le professeur Jean-Jacques Hublin et vous compléterez ensuite Vincent.
Cette découverte, elle bouleverse un peu les idées que l'on a sur cette apparition, puisqu'effectivement, au lieu d'une apparition dans un espèce de jardin d'Éden est-africain, on se rend compte que probablement c'est l'ensemble du continent africain qui a été impliqué dans cette émergence. Je crois que surtout ce qui est important, c'est ce que cela nous apprend sur le processus d'émergence de notre espèce. Et c'est peut-être de ce côté-là que, pour un paléoanthropologue, il y a le plus de surprises, aussi le plus de débats.
Quand l'humanité est-elle devenue sapiens? Question complexe, débattue et réouverte par toutes ces découvertes, par celles de toutes les autres espèces humaines qui ont un temps peuplé la Terre en même temps que sapiens et qui l'ont croisée. Quand l'humanité est devenue sapiens, c'est ce dossier de la recherche que vous avez coordonné. Vincent Bordenave, Homo sapiens n'est pas apparu comme ça du jour au lendemain.
Exactement, et ce qu'a dit Jean-Jacques Hublin résume parfaitement les enjeux de la problématique. Alors, pour écrire ce dossier, on s'est posé trois questions dans l'ordre. D'abord, à quoi ressemblait l'humanité quand nos ancêtres sont apparus, parce qu'elle ne ressemblait pas à ce qu'on connaît aujourd'hui. D'où venaient ces ancêtres? Et enfin, qui étaient-ils?
Était plus variée, beaucoup plus diverse, c'est
exactement,
ça
Exactement, elle était diversifiée, différents groupes humains pouvaient cohabiter. Alors, ces questions ont l'air simples, et pourtant, on est très loin d'avoir la réponse à chacune d'entre elles. Alors, déjà, à quoi ressemblait l'humanité? Ce que vous disiez, elle était complexe, elle était composée de plusieurs groupes, les Néandertaliens en Europe, les Denisoviens dont on ne sait pas grand-chose encore, qui semblent peupler l'Asie il y a plus de 50 000 ans, et Homo sapiens en Afrique. Ensuite, d'où viennent nos ancêtres, Homo sapiens? Pendant très longtemps, on a voulu chercher un jardin d'Éden, une Ève mitochondriale avec une mythologie un peu biblique, réussir à trouver un peu notre papa, notre maman à tous. Et petit à petit, là encore, on s'est rendu compte, les chercheurs se sont rendus compte que le schéma était sans doute beaucoup plus complexe et qu'on voulait bien croire. Et que plutôt que de chercher un ancêtre, un groupe, un lieu d'où nous serions tous originaires, il fallait prendre un peu de hauteur. Et l'Afrique, dans son ensemble, aurait servi en quelque sorte d'incubateur à la naissance d'Homo sapiens. Ça, c'est à la fois la génétique, mais aussi les recherches archéologiques qui nous ont permis de comprendre ça.
Donc tout le continent africain, sur lequel aujourd'hui, d'ailleurs, il y a la plus grosse diversité génétique au monde. Enfin, c'est encore des paradoxes, ça va contre nos idées reçues. Le continent africain est un vrai berceau, mais pas que le berceau, un berceau à roulettes et un berceau sur lequel, évidemment, les Homo sapiens sont aussi restés et ont évolué.
Exactement. Donc, on imagine qu'il y avait plusieurs groupes qui étaient assez proches d'un point de vue génétique, d'un point de vue anatomique, qui étaient surtout très connectés les uns par rapport aux autres et qui se sont homogénéisés, pour parler un peu grossièrement. Mm-hmm. C'est-à-dire que par des contacts récurrents, donc à la fois des rapports sexuels, voulus ou non voulus, ça c'est un autre débat, mais aussi par des échanges culturels, on a eu tendance à aller vers un seul groupe, mais très complexe, qui est le nôtre, qui se caractérise par au moins un point anatomique, c'est-à-dire une forme de la tête très globulaire, une face plutôt plate et l'absence de bourrelets susorbitaux. Alors, moi, j'en ai un petit peu, donc des fois, je me pose la question, mais on m'a rassuré en me disant que non, j'étais bien un Homo sapiens.
Non, mais t'es pas plus néandertal que Homo sapiens, ça.
Exactement.
C'est ça.
Et enfin, la question de savoir qui étaient ces gens qui avaient cette morphologie assez atypique. Est-ce que ce sont nous? Est-ce que ce sont nos ancêtres? Est-ce qu'on est les mêmes? Une chose est sûre, c'est que l'évolution s'est pas arrêtée il y a 300 000 ans, quand Homo sapiens est apparu, et je l'ai dit, pas par magie, par un système complexe, mais que ce groupe est sorti d'Afrique et petit à petit a supplanté tous les autres. C'est ici que le débat commence entre les
spécialistes. C'est ça, pourquoi est-ce que c'est ce groupe-là, Homo sapiens, qui finalement est, d'après ce que vous dites, un groupe bien plus métissé qu'on l'imaginait, peut-être une sorte de métissage de toutes les autres espèces humaines, et pourquoi c'est ce groupe-là qui a peuplé toute la Terre, pour le meilleur parfois, pour le pire aussi, souvent?
Ça, c'est toute la question et je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse, mais c'est là qu'est le débat. On va pouvoir répondre que ce groupe-là avait un avantage évolutif par rapport aux autres, une sorte de supériorité qui lui a permis de remplacer Néandertal, donc, qu'on connaît très bien en Europe, mais aussi les Denisoviens, ou sur les petites îles comme l'île de Flores ou l'île de Luzon aux Philippines, de remplacer ces espèces d'hommes qui existaient à l'époque. D'autres vont pouvoir défendre, au contraire, que ces échanges génétiques qui ont pu avoir lieu en Afrique à l'émergence d'Homo sapiens ont eu lieu aussi après, et que cet ensemble d'humanité n'a formé qu'un tout qui est aujourd'hui, qui nous sommes aujourd'hui, à savoir l'homme moderne, et que nous sommes que le résultat de cette complexité. Une deuxième chose qui est certaine, c'est que partout où on a vu avancer Homo sapiens, on a vu avancer quelque chose qui est unique, qu'on appelle l'art, la pensée complexe, la pensée symbolique, le fait de pouvoir dessiner des peintures comme ça s'appelle le cas à Lascaux, à Chauvet, etc. Là encore, il y a un débat. Des chercheurs disent que Néandertal est en capacité de le faire. Mmh. D'autres expliquent qu'au vu des connaissances scientifiques, de la recherche telle qu'elle est faite en Europe et du nombre de sites fouillés, les preuves ne sont pas suffisantes pour dire que Néandertal avait les mêmes capacités cognitives, en tout cas une même capacité à se projeter dans la pensée symbolique.
Il y a vraiment des débats, il n'y a pas de supériorité, d'infériorité, il y a vraiment des débats sur cette humanité métissée, foisonnante, et pourquoi le succès d'une seule espèce, ou comment s'est-elle rassemblée en une seule espèce, la nôtre.
Et c'est ça qui est fascinant,
Terre,
c'est l'absence... il y a un consensus sur l'origine, sur qui nous sommes, etc., le foyer africain. Mais les interprétations sont multiples et c'est Bruno Moriel qui le résume, je trouve, très bien dans le dernier papier du dossier. C'est en même temps, on a discussion sur quelques squelettes, quelques fossiles qui ont 300 000 ans. C'est normal qu'à partir de ça, on ait tous des points de vue différents et que par les pièces de puzzle qu'on a, on essaye de raconter une histoire et de mieux faire coller ces différents restes.
Donc un champ de recherche qui est loin d'être fermé, qu'au contraire est totalement ouvert quand l'humanité est devenue sapiens. Dossier très complet à lire dans la recherche de ce mois de février, dont nous avons aussi, chers amis auditeurs, quelques exemplaires à faire gagner à tous les homo sapiens que nous sommes et qui pourraient bien le devenir un peu plus sapiens, c'est-à-dire sage, raisonnable et intelligent. Et chez Homo, c'est le regretté Papa Wemba qu'il chante sur RFI.
Mokuse beta lindanda di Bakela yo motindo yo bona oye Moyo bafota yo na bomengo Nakabela yo pipale Yango pe okola na pipale Mingi hawa na mokino ya nzambe Nakusinga na nzambe Boto banga mwamoke Yale Vraiment promesse à Libano Pessa qui est pas à photo Joël Mibalien Mawa Yeah.
chez Homo Papa Wemba sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, pourquoi les humains sont-ils plutôt droitier et ce dès la naissance. Et pourquoi certains, 12% hein, tout de même de notre humanité, sont gauchers. Le mystère des gauchers, c'est le grand dossier de Cerveau et Psycho, Cécile Estienne, où l'on découvre que les plus créatifs et les plus champions ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Petit rappel sonore forcément latéralisé.
Vous êtes complètement gaucher, main, pied, enfin, tout.
Non, mais maman, ça va, là, c'est bon.
Bah quoi, on n'a pas de problème avec ça, je vois pas pourquoi on pourrait pas en parler. C'est pas, Paul ?
Non, non.
Et comment on dit d'ailleurs, non-droitier ?
Non, gaucher, ça va très bien.
J'ai deux mains gauches, j'ai pas de main droite, j'ai le cerveau un peu réduit. J'ai deux mains gauches, j'ai pas de main droite, je comprends pas ce qu'on dit.
On nous explique que Raphaël est le meilleur joueur gaucher du monde, mais c'est étrange puisque c'est la seule chose qu'il fait avec cette main. Même les balles, il les rattrape de la main droite.
Le grand mystère des gauchers, de leurs avantages et de leurs désavantages. Pourquoi 12% environ de l'humanité est latéralisée à gauche et d'où ça vient ? Cécile Estienne, on va vraiment de surprise en ce dossier, jusque dans notre cerveau, dans ce dossier de cerveau et psycho. C'est pas seulement une question génétique, même pas, presque pas une question génétique, quoique...
Si, il y a une aussi. Génétique, ça on le sait, parce que chez les vrais jumeaux, enfin chez les... jumeaux monozygotes, comme on doit dire en termes scientifiques. Si vous êtes, il y a sur quatre paires de jumeaux, trois seront latéralisés de la même manière, mais la quatrième non. Et donc, ce qui prouve que les gènes ne disent pas tout, loin de là, dans cette histoire.
Donc, c'est pas qu'une histoire de gènes, mais qu'est-ce qui se passe ? Au fond, c'est une histoire qui se voit dans le cerveau.
Oui, enfin plus
qui se lit dans le cerveau et qui démarre dès la naissance. C'est ça qui est
même avant.
Ah.
Non, c'est cette histoire effectivement du fait qu'il y ait des gens gauchers intrigue les chercheurs depuis très très longtemps. C'est pas du tout nouveau, voilà. Mais dans ce dossier justement, on a voulu faire le point sur ce qu'on savait, ce que pouvait dire la science, voilà, du fait qu'il y ait des droitiers et des gauchers aujourd'hui dans le cerveau et puis même au cours de l'histoire, parce que comme vous le savez surtout dans nos civilisations du livre, les gauchers ont été longtemps maltraités.
Dans nos civilisations du livre, vous dites pour une raison de toute simple,
oui, on les forçait à écrire à droite. Vous savez, les justes seront à la droite du père et pas à la gauche. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Et même ça se retrouve dans la langue. Hein, être la gaucherie, c'est être maladroit.
Mm-hmm. Sinistre, hein, sinistre en italien.
Aussi, parce que sinistre, c'est pas drôle et c'est la gauche. Enfin bon, donc, c'est
et tout ça, là. Au fond, ce sont des...
Et c'est lié probablement aussi à des habitudes de nos filles enfantiques. Donc voilà, c'est très ancien. Hein, mais...
Et tout ça, ce sont au fond des préjugés. C'est parce que la majorité d'entre nous étant droitiers, on considère que les autres sont moins bien que nous. Alors que justement, dans cette enquête, on découvre un peu, non pas le contraire, mais que non, c'est pas comme ça que ça se passe.
Non, mais c'est vrai que la question en soi est vraiment intéressante, parce que pourquoi y a-t-il plus de droitiers que de gauchers ? Si vous regardez vos extrémités, comme Caroline, comme vous n'êtes pas un crabe violoniste, vous n'avez pas une droite
mesurement
développée par rapport
pareil,
à l'autre. Donc voilà, donc, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de droitiers que de gauchers, et même si on devait être latéralisé, pourquoi il n'y en aurait pas 50-50 à peu près ? Alors que non, on ne retrouve pas ça. La moyenne, c'est 12%. Certaines études disent entre 8 et 15, mais on tourne toujours autour de cette fourchette-là, de gaucher.
Et on a une explication, pourquoi justement ?
Alors oui et non, on a plein d'indices et plein de qui nous expliquent ça. C'est quel est l'intérêt d'être gaucher ou même le désavantage d'être gaucher. On a longtemps cru qu'être gaucher était lié aussi à différentes, à un moins bon système immunitaire, à d'autres problèmes de santé, mais si ça avait été ça, on pouvait aussi se poser la question, c'est pourquoi les gauchers n'ont pas disparu alors. Voilà. Alors, un des avantages des gauchers, c'est qu'ils étonnent les droitiers. Et en tout cas, ça se voit encore aujourd'hui en sport, évidemment, dans certains sports, notamment en tennis, à la boxe aussi. Les gauchers sont surreprésentés. Voilà. Et peut-être être gaucher leur donne un avantage que le fait de surprendre les droitiers qui, évidemment, ont moins l'habitude de répondre à un gaucher. Et probablement avant, à une époque où peut-être on se bagarrait plus, peut-être, on se battait plus, je ne sais pas. Voilà, c'était aussi un avantage d'être gaucher.
Voilà ce qui est pour les champions, puisqu'on en compte beaucoup plus qu'il n'y a de gauchers dans la population.
Oui.
Mais ça s'explique aussi dans le cerveau, parce qu'on ne le sait pas toujours, mais notre main droite, elle est reliée à notre hémisphère gauche, c'est ça. Et notre main gauche à notre hémisphère droit.
Et Et c'est probablement une des raisons pourquoi nous sommes latéralisés. Ça n'explique pas pourquoi c'est plus la droite que la gauche, mais une des raisons pour lesquelles on est latéralisé, c'est que ça fait une économie d'énergie. Voilà. Vous savez, comme notre cerveau est très, très, très gourmand d'énergie, il consomme à peu près le cinquième des calories que vous ingurgitez, alors qu'il ne pèse pas le cinquième de votre poids, sinon ça serait un problème. Et donc, il vaut mieux apprendre à faire certains gestes voilà, d'une seule main ou d'une seule jambe, voilà, parce que c'est une économie. Donc c'est pour ça, mais ça n'explique pas pourquoi il y a plus de droitiers que de gauchers, mais ça explique pourquoi on a besoin d'être latéralisé, surtout que l'homme, particulièrement de grandes capacités de motricité fine. Et d'ailleurs, moi, c'est une des choses qui m'a le plus frappée quand nous avons élaboré ce dossier. C'est ce que nous aura raconté un historien, Pierre-Michel Bertrand, à qui on posait la question justement de la place des gauchers dans la société et qui raconte que depuis toujours, effectivement, la gauche, dans nos sociétés en tout cas, est associée à quelque chose de pas très bien. Mais en fait, les gauchers n'ont pas été vraiment maltraités à peu près jusqu'au XVIe siècle. Parce que dans la vie courante d'un paysan du Moyen-Âge, être gaucher et droitier, ça ne se voyait pas beaucoup. Et même s'il était gaucher, il y a des choses qu'on n'avait absolument pas le droit de faire dans la main gauche. Le signe de croix, par exemple, ou serrer la main de quelqu'un. Donc, mais ça, même si vous êtes gaucher, vous pouvez le faire dans la main droite. Voilà. Ça a commencé à se voir vraiment avec l'école. Quand le plus de personnes ont appris à écrire. Voilà. Donc, 17e, 18e, 19e siècle, évidemment, avec la loi Guizot, puis les lois Ferry qui ont mis l'école gratuite pour tout le monde et l'instruction obligatoire, y compris des filles. Et donc, c'est là qu'on a vraiment vu qu'il y avait des gens qui étaient gauchers, donc qui étaient différents et qui, à partir de là, ont été vraiment maltraités. Parce que la motricité fine est ce qui est le plus impacté par le fait d'être gaucher. Et donc, quand vous êtes vraiment gaucher, parce que c'est un continuum, hein,
ça, on n'est peut-être pas 100% gaucher.
Non, pas toujours. Mais bon, mais il y a certains individus qui sont vraiment très gauchers. Voilà, et pour les individus très gauchers, écrire de l'autre main est extrêmement difficile.
Et ce n'est pas du tout à conseiller que de forcer à écrire de l'autre main, d'autant non. que c'est une particularité, vous le disiez, Cécile Estienne, qui se joue, qui se noue dès la naissance et même avant.
On le voit chez les fœtus.
C'est ça.
Et dès la 13e semaine, il y a une préférence pour le pouce gauche ou le pouce droite.
Et c'est aussi avec l'élaboration du cerveau que les enfants, les prématurés, sont plus souvent gauchers.
Alors, on a remarqué, on ne sait pas l'expliquer, qu'effectivement, il y a plus de gauchers chez les enfants prématurés. Il y a plus de gauchers chez les enfants qui ont eu un stress physiologique à la naissance. Il y a aussi plus de gauchers chez les jumeaux et les triplés. Mais ça va peut-être avec la prématurité et les petits poids. Voilà. Chez les enfants qui font moins de 1 kg, il y aurait 50% de gauchers à la naissance. Moins de 1 kg à la naissance, il y aurait 50% de gauchers après.
Parce qu'on serait peut-être d'abord gaucher ou on ne sait pas du tout. Tout ça, ce sont des hypothèses. En tout cas, ça fait partie... De tous ces mystères des gauchers. Hein.
Et très récemment, il y a une équipe de chercheurs d'Oxford voilà, qui nous font un article dans ce dossier, qui ont réussi à... Ils sont partis d'une étude génétique. Il y a une grande base de données génétiques en Angleterre qu'ils ont pu utiliser, qui regroupe des données génétiques et médicales, voilà, qui regroupe les données sur à peu près 500 000 de personnes, ce qui est beaucoup. Et ils sont allés regarder des marqueurs génétiques qu'on utilise beaucoup pour rechercher, vous savez, la paternité ou les origines ethniques, enfin, qui sont des marqueurs très précis. Et ils se sont aperçus que dans cette base de données, en tout cas, il y avait 3 ou 4 de ces marqueurs qui étaient vraiment spécifiquement associés aux personnes gauchères. Et il se trouve que 3 de ces 4 marqueurs sont impliqués dans la formation des microtubules. C'est une sorte de poutrelle que vous avez à l'intérieur des cellules. C'est un peu le squelette de la cellule. Ça forme le squelette de la cellule. Et dans le cerveau, c'est associé à une certaine différence d'architecture du cerveau, notamment de la matière blanche, justement entre les différentes zones du langage. Et chez les droitiers, le langage est à gauche, enfin, les zones du langage sont majoritairement à gauche. Et chez les gauchers, il semblerait que ce soit un peu plus bilatéral. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que justement les gauchers seraient plus à l'aise avec la parole ?
Et oui, plus à l'aise avec la parole ou une meilleure communication cérébrale ?
On ne sait pas encore, mais c'est à tester. Ça serait... Parce qu'il y a aussi... mais c'est probablement un mythe qui dit que les gauchers sont plus créatifs et que les droitiers, parce que Michel-Ange, parce que Léonard de Vinci, parce que Mozart était gaucher. Voilà, après, on a peut-être oublié beaucoup, tous les même, autres gauchers.
Hein. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, pour percer un peu du mystère des gauchers, dossier très complet, assez étonnant à lire dans ce numéro de février de Cerveau et Psycho, dont nous avons bien sûr, chers amis auditrices et auditeurs de gauche comme de droite, quelques exemplaires à vous faire gagner sur RFI à l'écoute d'une chanson dédiée à tous les gauchers, signé Calogero sur RFI, conduire en Angleterre.
Depuis que je suis écolier, mes pages blanches penchent, tous les mots restent collés au revers de ma manche. Coude à table, un moche dimanche, c'est jamais très confortable. C'est pour un manche.
Sous un autre hémisphère, je vis le monde à l'envers. C'est à croire que la terre est droitière. Je veux conduire en Angleterre. Sous un autre hémisphère, je vis le monde à l'envers. Je rêvais de jaguars et de fenêtres et de conduire.
Conduire en Angleterre, chanson dédiée au gaucher et signée de la main gauche par Calogero sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse, il va falloir maintenant nous servir de nos deux hémisphères, du droit comme du gauche, pour imaginer l'énergie du futur. Science et vie consacre sa une et son grand dossier à la fusion nucléaire, promesse ou réalité. On fait le point avec vous, Vincent Nouériga, sur ce graal de la recherche mondiale, après une petite mise au point du vidéaste Bruce Benhamran et de son complice Baptiste pour cette série Breaking Ball sur sa chaîne Y Penser.
Canaliser toute l'énergie libérée par un processus de fusion pour ensuite utiliser cette énergie de façon contrôlée, c'est excellent.
Oui,
et le problème, c'est qu'on sait pas faire. On sait faire une bombe H, parce que, pour faire simple, on cherche pas du tout à contrôler ce qui se passe une fois que ça pète. Mais contrôler la fusion nucléaire, pour l'instant, c'est que de la recherche.
Non, c'est pas encore uniquement de la recherche. C'est de la recherche avancée. On a de bonnes pistes. Je sais pas, moi, le plasma thermonucléaire confiné magnétiquement, t'en fais quoi, toi, par exemple?
En effet. Ceci étant, un des vieux rêves de beaucoup de scientifiques, c'est la possibilité de provoquer de la fusion dite « froide », sans avoir besoin de température à des millions de degrés.
Oui, parce que l'énergie nécessaire à fabriquer de telles conditions,
température, pression,
fait qu'il n'est pour l'instant pas très rentable de produire de l'énergie par fusion.
Rentable ou pas rentable, surtout comment la produire, cette formidable énergie par fusion nucléaire, Vincent Nouériga, vous consacrez la une et le dossier de Science et Vie de ce mois de février à ce sujet.
Oui, en effet, on s'y consacre parce qu'on est en train de constater depuis quelques années que pas mal de chercheurs dans des laboratoires assez prestigieux comme le MIT, Oxford, etc., sont en train de former des start-up, de concevoir des start-up dédiées à la fusion nucléaire. Alors ça nous a paru étonnant au début parce que ça fait 70 ans que les physiciens nous promettent la fusion nucléaire, c'est-à-dire une énergie sûre. Alors on n'est pas du tout dans le cas de la fission nucléaire des réacteurs nucléaires classiques. Elle est sûre au sens où la réaction ne peut pas s'emballer comme ça a été le cas à Tchernobyl. Il n'y a pas vraiment de soucis par rapport au refroidissement du combustible comme ça a été le problème à Fukushima. C'est surtout une énergie propre, hein. C'est pour ça qu'on s'y intéresse aujourd'hui avec l'urgence climatique, ça dégage pas de CO2, il y a quelques déchets radioactifs en effet, mais qui sont assez gérables, enfin c'est faiblement radioactif, il n'y a pas besoin de faire de l'enfouissement géologique pour des dizaines de milliers d'années, et c'est aussi une énergie abondante parce qu'on peut trouver le combustible dans l'eau de mer, n'y a pas besoin d'uranium, de charbon ou de pétrole. Le combustible est présent dans l'eau de mer. Enfin, une partie du combustible, en tout cas, est facilement extractable depuis l'eau de mer. Et il se trouve que ces dernières années, il y a eu quelques progrès techniques qui laissent espérer que cette énergie qui est effroyablement difficile à produire.
Hein, c'est ça. C'est,
les conditions qui sont requises sont de l'ordre de 150 millions de degrés, donc c'est 10 fois la température du soleil. Il faut arriver à confiner ça pendant... donc c'est un plasma de noyaux d'hydrogène, en fait, de deux isotopes d'hydrogène, enfin peu importe, qui fusionnent en fait entre eux, qui se rendent dedans et qui fusionnent pour former qu'un seul noyau en produisant beaucoup d'énergie, une quantité faramineuse d'énergie. La densité énergétique est hallucinante. C'est 10 millions de fois une réaction, par exemple, dans une centrale à charbon. En termes de densité énergétique, c'est 10 millions de fois la combustion du charbon. Ouais.
Impossible, enfin pour le moment impossible à produire, bah, ça moment, semble comme, inatteignable.
Comme le disait l'enregistrement précédent, on n'y arrive pas, ça ne marche pas pour le moment. En tout cas, il y a des essais, il y a plusieurs tokamaks, on appelle ça des tokamaks, c'est-à-dire c'est des machines, et il y a d'autres machines, hein. Il y a d'autres machines qui sont en train de naître, d'autres architectures qui sont en train de naître, mais la vieille bonne machine actuelle qui est en avance sur tout le monde, c'est une espèce de gros donut, enfin une espèce de beignet dans lequel on met...
Un beignet avec un trou au milieu.
Voilà, un trou au milieu, et à l'intérieur, il y a un plasma qui est chauffé à des centaines de millions de degrés, qui est confiné, c'est-à-dire qui est retenu par un champ magnétique, et on essaie d'obtenir la fusion de cette sorte.
C'est là-dessus que c'est comme ça que fonctionnerait ITER, ce fameux...
Alors voilà, c'est le fameux ITER, projet international qui est sans cesse repoussé, qui est sans cesse de plus en plus cher, là, on doit être à 20 milliards d'euros, un truc comme ça, et c'est un projet qui a été en plus lancé par Gorbatchev et Reagan en 1985, c'est pour
donc
vous dire
ça
si ça remonte, ça date.
On y croyait déjà.
Mais là, en l'occurrence, là, dans les semaines à venir, courant mars, les premiers éléments de cette machine expérimentale vont commencer à être assemblés. C'est quand même une étape assez symbolique. On pourrait dire enfin, ça commence. Ça va durer encore 5 ans. Hein. Le montage va durer 5 ans et puis après, il y aura 10 ans d'expérience. 10 ans d'expérience pour arriver à produire pendant 5-10 minutes maximum, je crois. En tout cas, c'est leur objectif, de l'énergie de fusion, avec une fusion auto-entretenue. Mais il n'y a pas que ITER, il n'y a pas que ce grand projet international qui a été inerte, c'est un gros paquebot qui a pas mal de problèmes d'organisation, de budget et tout. Il y a donc ces startups dont je parlais tout à l'heure qui arrivent avec des idées nouvelles, avec aussi des progrès techniques qui... il n'y avait pas ça il y a 10 ans, une capacité de calcul très forte, aussi des matériaux supraconducteurs qui permettent d'avoir des aimants beaucoup plus puissants et de confiner beaucoup mieux le plasma. Et il y a aussi, évidemment, l'apport de l'intelligence artificielle qui pourrait... Alors, pour le moment, on en est vraiment au balbutiement, mais l'intelligence artificielle permettrait de mieux gérer le plasma, parce que c'est une matière très capricieuse. C'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés épouvantables à le confiner. Il est extrêmement instable. Et peut-être qu'avec un peu d'intelligence artificielle, on arrivera à mieux le contrôler, à anticiper ses réactions.
Et à faire des étincelles de fusion. Qui sait ? Dossier complet, en tout cas, sur la fusion nucléaire, à lire dans Science et Vie, dont nous avons, je vous le rappelle, quelques exemplaires à vous faire gagner, chers amis auditeurs. Si vous nous demandez par mail ou sur notre page Facebook, autour de la question sur RFI, sous les bons auspices de la fée électricité invoquée par les Oufris Maracas sur RFI.
Pour un peu d'électricité, on hypothèque l'humanité. Pour quelques heures de kilowatts, on se retrouve à quatre pattes, prêt à se faire sodomiser par la fée électricité qui nous ferait tranquillement vendre notre femme et nos enfants. Les petits gars de l'EDF disent que le vent ça suffit pas, que le soleil c'est pas bézef, que l'hydrolien ça marche pas. Pour assurer le samedi la consommation d'énergie, y'a rien qui peut mieux faire l'affaire qu'une bonne vieille centrale nucléaire. Terre par tête, mais tous la gueule par terre.
La fée électricité des Oufris Maracas sur RFI. Autour de la question comment la science infuse, on a ouvert Mathieu Novak sur ce nouveau coronavirus émergent. Dans Science et Avenir, vous nous rappelez que nous les vivants, nous les humains, nous devons au virus et surtout au virus géant qui ont fait de nous finalement ce que nous sommes.
Hein. Oui, généralement les virus on n'aime pas trop ça, mais là figurez-vous, la science est absolument merveilleuse. Il y a une quinzaine d'années, on a découvert quelque chose d'énorme qu'on n'avait jamais jamais vu. Des virus, mais géants, qu'on ne les voyait pas, parce que c'était trop gros. Donc, quand on les faisait passer par la passoire. Voilà. Et donc, maintenant, on se plonge dans leur génome et on découvre des choses absolument fascinantes. Et les dernières en date, c'est effectivement qu'ils nous ont laissé un certain nombre de choses qui nous permettent d'exister.
Dont le placenta.
Dont, en fait, ce qui permet de ne pas rejeter le placenta. Le virus, quand il pénètre un organisme, il a besoin de passer discrètement. Et bien, ce qui lui permet de rester discrètement dans l'organisme, ça a été transformé, conservé chez les êtres vivants pour être intégré au génome et rester dans leur génome.
Grâce au virus géant à découvrir dans Science et Avenir, c'est les algorithmes maintenant que vous mettez en question dans la recherche, Vincent Bordenave, avec un grand entretien avec une formidable informaticienne, Claire Mathieu, qui explique finalement que ces puissants outils qui nous font si peur pourraient aussi servir le bien commun.
Exactement. Les algorithmes sont omniprésents maintenant avec le développement des outils informatiques, d'Internet, de l'intelligence artificielle. Et ils nous font peur des fois. Et Claire Mathieu s'interroge sur l'utilité de ces algorithmes. Et nous rappelle quand même que le plus important, c'est l'humain qu'il y a derrière. Que de la théorie à la pratique, à l'application dans la vie réelle, il faut pouvoir maîtriser l'ensemble des outils. Et c'est les gens qui dessinent ces algorithmes, qui les mettent en avant, qui dirigent ça. Elle a notamment travaillé sur l'algorithme d'admission post-bac, Parcoursup, pardon, qui remplace justement l'algorithme d'admission post-bac.
Qui a fait beaucoup parler de lui.
Exactement, qui a fait beaucoup parler de lui parce que admission post-bac correspondait à un ancien système, à une époque où les étudiants classaient leurs choix seulement pour les filières sélectives. Il a été élargi à toute l'université et c'est là que ça a couaqué. Et donc, on a dû construire un nouvel algorithme qui est celui de Parcoursup qui aujourd'hui, apparemment, marche un peu mieux. Mais Claire Mathieu s'interroge aussi, et je trouve que c'est très important, sur le pourcentage de femmes présentes dans les études d'informatique et qui travaillent là-dessus, sur ces algorithmes, et comment est-ce qu'on fait en sorte à ce que cette discipline, que tout le monde puisse s'emparer de ces questions-là et de cette discipline.
Question ouverte, non seulement ici en France et au Nord, mais aussi au Sud, où on soutient évidemment les femmes informaticiennes. Tiens donc, Cécile Estienne, alors vous n'êtes pas informaticienne, et vous allez maintenant nous apprendre que certains animaux, enfin on est dans le sommeil, là, le repos, certains animaux sont vraiment capables de dormir d'un seul œil ou d'un seul côté du cerveau.
D'un seul hémisphère du cerveau. En fait, c'est depuis les années 60, un chercheur américain s'était aperçu qu'effectivement, les dauphins ne dormaient littéralement que d'un œil. Et après, on a évidemment compris pourquoi. C'est parce que les mammifères marins ont beau vivre dans l'eau, ils ont des poumons, ils ont besoin de remonter régulièrement à la surface pour respirer. Ils sont aussi à sang chaud, donc ils ont besoin de bouger dans les eaux froides pour ne pas s'engourdir. Donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent dormir que d'un seul hémisphère à chaque fois. Et depuis, on a découvert qu'il y a beaucoup d'autres animaux qui dorment comme ça que d'un œil, certains reptiles même. Mais mon préféré, je pense, c'est la frégate du Pacifique, qui est un oiseau marin, comme son nom le laisse deviner, voilà, qui est un oiseau marin, mais alors qui ne peut pas se poser sur l'eau, c'est son problème, parce qu'il a des petites pattes à peine palmées, ça ne marche pas, et ses plumes ne sont pas hydrophobes, donc il ne pourrait pas redécoller s'il se mouillait. Et donc voilà, ils peuvent rester un mois dans l'air sans jamais se poser, voilà. Et donc les chercheurs, qui ne sont jamais à court d'imagination, ont réussi à en capturer quelques-uns, à leur mettre des petits capteurs sur la tête pour à la fois enregistrer le sommeil et tout ça, et ils se sont aperçus que la frégate du Pacifique dormait moins d'une heure par jour et restait efficace.
Ça me fait rêver. Je comprends que ça vous fasse rêver, Cécile Etienne. En tout cas, c'est à lire dans Cerveau et Psycho. On devait aussi, Vincent Nouériga, parler des hippopotames. Je ne sais pas s'ils dorment d'un seul œil ou d'un hémisphère ou de l'autre, mais vous avez quand même, allez, on va dire 30 secondes pour nous parler de ces incroyables hippopotames de Pablo Escobar,
C'est-à-dire, oui, il y a une étude américaine qui vient de sortir sur une espèce invasive un peu particulière. On les appelle les hippopotames de la coque, oui, comme vous le dites, les hippopotames de la drogue. C'est-à-dire que Pablo Escobar avait ramené pas mal d'animaux exotiques dans sa grande maison en Colombie, et donc 4 hippopotames, un mâle et 3 femelles. Et depuis les années 90, mais ils ont fait florès. Il y en a 80 aujourd'hui et ils sont en train de bouleverser les écosystèmes locaux.
Comment s'en débarrasser de ces hippopotames de la coque et de Pablo Escobar? Je vous laisse là-dessus. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, évidemment, autour de cette table ronde mensuelle avec vos journaux que vous pouvez gagner, chers amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Merci à Hugo Violas de l'autre côté de la vitre à la réalisation. Merci à Caroline Fillette en coulisses. La semaine prochaine, c'est Charlie Dupio qui sera à ce micro. Et moi, je vous retrouve la semaine suivante dans un instant le journal sur RFI. Monde Blog.